Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er mars 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le secrétaire général de l'ONU réaffirme la détermination de la MINUSMA après l'attaque qui a coûté la vie à 4 casques bleus au Mali.
En République centrafricaine, la MINUSCA condamne de son côté le meurtre récent de 6 travailleurs humanitaires.
Poursuite de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après Nouakchott hier, Dakar maintenant et puis Bamako.
En Syrie, toujours pas de civils ou de convois d'aide dans le couloir humanitaire établi par Damas et Moscou dans la Ghouta orientale.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, 4 casques bleus ont été tués dans une explosion de mine à Douensa et un garde national a été abattu par des hommes armés dans la nuit à Gao. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Se rendre à Douensa n'est plus chose facile. Actuellement, le tronçon Mopti Douensa est miné. Douensa Boni est fatal. C'est ainsi qu'hier, un convoi de la MINUSMA du contingent Bangladesh a sauté sur une mine. Le bilan provisoire indique que 4 casques bleus ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif. 4 autres soldats de la paix ont été également grièvement blessés. Avec cette attaque, la MINUSMA veut désormais renforcer son dispositif sécuritaire dans le centre du Mali, aux côtés de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux. À Gao, la nuit a été très mouvementée. Les jeunes étaient descendus dans les rues suite à l'assassinat d'un soldat malien devant la mosquée Kouet. Il était en poste au tribunal de Gao quand des hommes armés ont ouvert le feu sur lui. Des manifestations ont dégénéré après cet assassinat. Il y a eu 2 blessés graves qui ont été admis à l'hôpital régional de Gao. Finalement, les jeunes se sont dispersés très tard dans la nuit avant de se donner rendez-vous ce matin pour une grande marche dans la cité des Askia, Bamako. Traoré, VOA Afrique.
L'attaque qui a coûté la vie aux 4 casques bleus bangladais a été condamnée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a rappelé dans un communiqué que cet incident est intervenu un jour après que 6 membres des forces armées maliennes ont été tués dans une autre attaque à l'engin explosif improvisé dans le centre du Mali.
Ces actes lâches n'entameront pas la détermination de la MINUSMA à soutenir les autorités maliennes dans leurs efforts pour protéger les civils et accompagner le peuple malien dans sa quête de paix et de stabilité, poursuit M. Guterres. Les attaques ciblant les casques bleus, a-t-il averti, peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international et les responsables doivent être interpellés et jugés.
En République centrafricaine, la MINUSCA a condamné hier le meurtre d'un employé de l'UNICEF et de 5 autres travailleurs humanitaires. Ils ont été tués dimanche lors d'une attaque dans le nord-ouest du pays. Précision de John Lyndon.
L'attaque s'est produite alors que le groupe se rendait à Markunda, dans une zone reculée proche de la frontière tchadienne. Les nationalités des personnes tuées n'ont pas immédiatement été révélées. En août dernier, des inconnus avaient tué 6 volontaires de la Croix-Rouge dans le sud-est du pays, un mois à peine après la mort d'un autre humanitaire tué par un groupe armé à Bangassou. Nous condamnons vivement cet acte insensé contre des coopérants humanitaires qui venaient pour améliorer la vie des populations les plus vulnérables, a déclaré hier la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Marie-Pierre Poirier.
Et puis le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a effectué sa première visite officielle hier à Kinshasa où il a discuté de la coopération avec son homologue congolais Joseph Kabila. Selon le communiqué publié à l'issue de la rencontre, M. Mnangagwa a encouragé M. Kabila dans la collaboration de la RDC avec la SADC, la Communauté économique et de développement de l'Afrique australe, s'agissant du suivi du processus électoral congolais qui, je cite, « se veut irréversible ». Il a été aussi question, citation encore, du redimensionnement des forces de la MONUSCO et de leur départ progressif du territoire congolais comme le propose Kinshasa. Le Zimbabwe a en effet des contingents dans les forces onusiennes et dans la brigade d'intervention de la SADC.
Suite de la tournée africaine de Recep Tayyip Erdogan, le président turc s'est arrêté quelques heures à Nouakchott avant de se rendre à Dakar. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est la première visite d'un chef d'État turc en Mauritanie. Recep Tayyip Erdogan est arrivé hier après-midi à Nouakchott pour une visite de quelques heures. Accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, M. Erdogan a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Abdelaziz. Le président turc a signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, mais aussi dans les hydrocarbures et les mines. Le chef de l'État turc a quitté la Mauritanie en début de soirée pour se rendre au Sénégal, avant-dernière étape d'une tournée africaine qui s'achèvera vendredi au Mali. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain. Il s'efforce également de combattre l'influence du prédicateur turc Fethullah Gulen, qui a ouvert plusieurs écoles sur le continent. Ankara l'accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016.
Au moins 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une collision ferroviaire mercredi à Al-Bahira, dans le nord de l'Égypte. Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision. La cause de l'accident est pour l'instant inconnue, selon la gouverneure de la région. Cet accident intervient quelques mois après qu'une collision entre deux trains près d'Alexandrie a fait 41 morts et plus de 120 blessés en août 2017.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, aucun civil ou convoi d'aide n'a encore emprunté un couloir humanitaire établi depuis deux jours par le régime syrien et son allié russe pour les habitants de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Pendant ce temps, les belligérants continuent de s'accuser de violations de la trêve. Ce couloir est prévu dans le cadre d'une trêve quotidienne de 5 heures, annoncée lundi par la Russie, pour permettre l'entrée de l'aide et la sortie de civils de cette enclave, cible d'une campagne aérienne du régime syrien qui a coûté la vie à plus de 600 civils depuis le 18 février.
En France, une députée d'origine togolaise de la majorité présidentielle a annoncé hier le dépôt d'une plainte à Paris pour avoir reçu une lettre contenant des insultes racistes et des menaces de mort. Les détails avec Anastasie Toudièche.
Je n'ai jamais subi une attaque d'un tel racisme et on me menace de mort. On ne peut pas laisser passer ça, a déclaré Laetitia Avia, élue de Paris pour La République en Marche, née de parents togolais. La députée a publié sur son compte Twitter une lettre qu'elle a reçue contenant des insultes racistes et des menaces de mort. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, lui a exprimé son soutien, se disant indigné par l'odieuse attaque raciste. Deux associations françaises ont également apporté leur soutien à la députée de Paris. La semaine dernière, l'annonce du choix d'une jeune métisse pour incarner Jeanne d'Arc avait déclenché sur les réseaux sociaux un déferlement de commentaires injurieux et racistes en France.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a lancé hier une nouvelle attaque contre Jeff Sessions, son ministre de la Justice, jugeant honteux son choix de procédure pour enquêter sur d'éventuels abus dans les écoutes téléphoniques. Précision de Yacouba Ouedraogo.
Le président Donald Trump s'est demandé pourquoi Jeff Sessions, ministre de la Justice, a instruit l'inspecteur général d'enquêter sur les possibles abus de la FISA, la Cour qui détaille les conditions dans lesquelles une personne peut être placée sur écoute. L'inspecteur général n'a-t-il pas été nommé par Obama? Pourquoi ne pas avoir recours aux juristes du ministère de la Justice? Honteux, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Ancien sénateur de l'Alabama, le conservateur Jeff Sessions, soutien de Donald Trump durant sa campagne, est souvent la cible des piques du président américain. Il reproche à son ministre de la Justice de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, une affaire qui empoisonne sa présidence. De son côté, M. Sessions a affirmé qu'il va continuer à accomplir son devoir, je cite, « avec honneur et intégrité ». Ce ministère va continuer à faire son travail de façon juste et impartiale, dans le respect de la loi et de la Constitution, a conclu Jeff Sessions.
Toujours à Washington, Hope Hicks, une proche conseillère du président Trump, a démissionné hier de son poste de directrice de la communication à la Maison-Blanche à 28 ans. Elle est la plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste. Dans un communiqué, M. Trump lui a rendu un vibrant hommage tout en expliquant avoir compris qu'elle voulait explorer d'autres opportunités. La veille, Hope Hicks avait refusé de répondre à de nombreuses questions de la commission du renseignement de la Chambre des représentants réunie à huis clos. Selon certains parlementaires, elle aurait reconnu à cette occasion que son travail à la Maison-Blanche l'avait parfois poussée à dire, et je cite, « des mensonges innocents », mais qu'elle n'a jamais menti au sujet de l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Les États-Unis ont appelé hier la communauté internationale, au cours d'une conférence ici à Washington, à renforcer l'arsenal civil contre les djihadistes du groupe État islamique pour prolonger les succès militaires en Irak et en Syrie. L'administration américaine a mis en avant trois outils, les sanctions financières, la généralisation du Passenger Name Record, un registre de données des passagers aériens, et le renforcement de l'usage de la biométrie pour améliorer le contrôle aux frontières. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Ekia Badou.
En Côte d'Ivoire, depuis mardi, le Conseil du coton et de l'anacarde a interdit la remontée vers les zones frontalières de tout véhicule ou engin transportant des noix de cajou, ainsi que des cargaisons refoulées à l'entrée des magasins portuaires, et la fermeture systématique et immédiate, jusqu'à nouvel ordre, de tout magasin et centre de collecte situé dans les zones frontalières. L'an dernier, 390 000 tonnes de noix de cajou vendues à 98% vers l'Inde ont rapporté plus de 225 millions d'euros à la Côte d'Ivoire. Au Mali, le ministre du Développement industriel a posé mardi la première pierre d'une usine de production entièrement dédiée à la fabrication de Denil International en vue de la distribution de la marque de cigarettes au Mali. L'usine sera dans l'enceinte de la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, la Sonotam. Le coût de la réalisation s'élève à 10 milliards de francs CFA. Cette construction fait suite à un accord entre la Sonotam et British American Tobacco, conclu le 7 décembre dernier à Paris. En République démocratique du Congo, le gisement Kakula du projet Kamoa Kakula contient beaucoup plus de cuivre que précédemment estimé. La compagnie Ivano et Mine a annoncé lundi une hausse de 50% des ressources à une teneur de coupure de 3%. Suite à une nouvelle estimation, la mine Kakula hébergerait donc 174 millions de ressources minérales.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coup dur pour le PSG, Neymar va être opéré.
Et oui, la mauvaise nouvelle est tombée pour le joueur brésilien qui va être opéré au Brésil. Il sera indisponible 6 à 8 semaines selon son clan. La star, vous vous en souvenez, s'est blessée seule contre Marseille, c'était en championnat. Le verdict est donc tombé, opération la semaine prochaine au Brésil, comme l'a annoncé le médecin de la Seleção. C'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui comptait sur le Brésilien pour affronter Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Neymar, acheté 222 millions d'euros par Paris, ne veut surtout pas prendre de risques pour participer à la Coupe du Monde cet été en Russie. Cette blessure, en tout cas, n'a pas eu d'impact sur le Paris Saint-Germain qui a battu hier soir au Parc des Princes 3-0 l'Olympique de Marseille pour accéder aux demi-finales de la Coupe de France.
La Juventus Turin en forme.
Et oui, la vieille dame, triple tenante de la Coupe d'Italie, visera son quatrième trophée de rang après avoir validé sa qualification pour la finale en battant par 1-0 l'Atalanta Bergame lors de la demi-finale retour, un score identique à celui de l'aller. En finale, le 9 mai prochain à Rome, la Juventus, sextuple championne d'Italie en titre, affrontera le Milan AC, les Milanais qui ont éliminé la Lazio de Rome au tir au but, 0-0 à la fin du temps réglementaire, 5 tirs au but à 4.
Dopage, la Russie annonce la fin de sa suspension par le CIO.
En tout cas, le président du comité olympique russe, Alexander Zoukov, a annoncé hier que la suspension suite à des scandales de dopage avait été levée par le comité international olympique. Si le CIO confirmait cette annonce russe, ce serait une grosse surprise, car deux athlètes russes engagés aux Jeux olympiques cet hiver en Corée du Sud ont été contrôlés positifs, le curleur Alexander Krushenitsky et la bobeuse Nadezhda Sergeeva. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Détroit et Milwaukee 110 à 87, Toronto et Orlando 117 à 104, Atlanta et Indiana 107 à 102, Boston et Charlotte 134 à 106, Golden State et Washington, 109 à 101. Phoenix et Memphis, 110 à 102. Oklahoma City et Dallas, 111 à 110. La Nouvelle-Orléans et San Antonio, 121 à 116.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le processus de cantonnement, de désarmement et d'intégration était au centre d'un atelier à l'endroit des chefs de base des différents mouvements armés, l'objectif étant de préparer un éventuel enregistrement des combattants. Reportage à Tombouctou d'Abdoulaye Traoré.
La Commission nationale de mobilisation, désarmement et réinsertion poursuit ses activités à Tombouctou avec un atelier sur les documents et registres pour l'enregistrement des combattants. L'atelier est placé sous la présidence du gouverneur de région en présence du président de la Commission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion, Zahabi Ould Sidi Ahmed, accompagné d'une forte délégation. Le chef de bureau de DDR de Tombouctou nous explique le contexte. Firoun Meiger.
Elle rentre dans le cadre de une mission que la Commission nationale des DDR a organisée du 11 au 15 dans la région de Tombouctou, où en concertation avec les différentes bases, la question de l'élaboration des listes s'était posée, les difficultés qui l'entravent et en même temps les souhaits, les possibilités de pouvoir actualiser ces listes.
Après cette étape de formation, les chefs de base procéderont au recensement des combattants. Nom, prénom, situation familiale, numéro d'armes tenues par le combattant, le site de son choix pour le cantonnement. Ce qui reste à savoir, est-ce que toutes les parties sont décidées à aller à ce cantonnement? Almou Ag Mohamed, porte-parole SEMA.
Du côté de la SEMA, tout est fin prêt pour aller à toute la mise en œuvre de l'accord. Nous, au niveau de la SEMA, on ne parle pas d'une mise en œuvre sélective de l'accord. On parle d'une mise en œuvre globale de l'accord. Vous savez que dans cet accord, il y a des dispositions politiques institutionnelles, il y a des dispositions relatives à la défense et à la sécurité, des dispositions relatives au développement économique, social et culturel et les dispositions relatives à l'humanitaire. Donc, au niveau de la SEMA, nous sommes prêts à aller à une mise en œuvre globale, efficiente et diligente de l'accord sur tous ces points, y compris le plan de défense et sécurité dans lequel est inscrit ce programme national de guerre.
La plateforme, depuis sa création, est un allié du gouvernement malien. Ghana Ould Mohamed, plateforme.
La plateforme est présente sur tous les terrains, partout, et surtout quand il s'agit de la paix, quand il s'agit de la stabilisation et quand il s'agit de la cohésion sociale, la plateforme est toujours prête pour vraiment jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de l'accord de paix.
Depuis la signature de l'accord d'Alger, sa mise en œuvre incombe aux trois parties. Malgré les efforts de part et d'autre, des difficultés ont émaillé tout le processus. Colonel Major Baba Ahmed, Commission nationale DDR.
Il y a des difficultés à chaque fois. Il y a un des partis qui se retire, il y a un des partis qui boycotte, c'est ça, des difficultés. Sinon, le gouvernement, depuis le début, nous, on était prêts. On a ouvert les bureaux dans toutes les régions. Les chefs de bureau sont désignés. On est prêts pour recevoir ces combattants et appliquer ce qui est dans l'accord d'Alger.
Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Sénégal, le conflit en Casamance demeure l'un des éléments les plus douloureux de l'histoire récente ou contemporaine de ce pays. Vieille de plus de 35 ans, cette lutte armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance a fait plusieurs centaines de victimes. Malgré un processus de paix instable, la région sud espère retrouver une paix durable. Sédina Abagay, envoyée spéciale à Ziguinchor.
Après les indépendances, la Casamance demeure dans une relative précarité économique et les populations se sentent marginalisées par rapport aux autres régions du Sénégal. Au début des années 80, le Casaspor, club fagnon de la région sud, est lourdement sanctionné par la Fédération de football suite à des incidents lors d'une finale de Coupe nationale. Ensuite, un élève est tué par les forces de l'ordre lors d'une grève à Ziguinchor, ce qui déclenche de graves émeutes dans le sud du Sénégal. Ces événements seront instrumentalisés, comme l'affirme Noa Cissé, historien et figure emblématique en Casamance.
Pendant 3 jours ici, le pouvoir était pratiquement dans la rue, ce qui va alimenter un peu les foyers, ce qui va alimenter les regroupements pour monter véritablement les gens contre un ordre qu'on n'aime pas, contre une forme de gestion qu'on récuse et conduire à la fameuse marche du 26 décembre 1982. Ils sont allés à la gouvernance, bien entendu, et là-bas, ils ont voulu descendre le drapeau vert, jaune, rouge, frappé de l'étoile, et mettre en lieu et place le drapeau blanc.
Cette marche, réprimée dans le sang, conduit les indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance à prendre les armes et à rejoindre le maquis. Depuis lors, la Casamance est plongée dans une violente crise qui aura fait des centaines de victimes. Aujourd'hui, l'espoir d'une paix durable est réel grâce au changement de position de certains leaders de la rébellion, comme l'indique Ibrahima Gassama, journaliste basé en Casamance.
Pour la première fois depuis le déclenchement du conflit, on a vu quelqu'un comme Salif Sadio, jugé comme étant le plus radical des chefs de guerre, qui a accepté de ranger les armes et d'aller discuter avec l'État. Les autres également étaient dans la même dynamique. Maintenant, il y a eu un problème d'approche parce que certains se sont sentis exclus, n'est-ce pas, de ce processus, et on travaille, les acteurs travaillent aujourd'hui à les ramener dans cette dynamique et permettre aux choses d'être homogènes et d'aller à la table des négociations.
Dans le passé, des efforts de paix similaires sont restés vains malgré plusieurs périodes d'accalmie. Le journaliste Ibrahima Gassama estime que certains manquements dans le processus de paix sont imputables à l'État.
Il n'y a jamais eu de véritable continuité de l'État pour surveiller les accords de paix qui étaient signés et qui étaient souvent remis en cause. Parce que l'État, c'est une continuité, mais ce dossier lié à la gestion du processus de résolution de la crise casamançaise ou en Casamance n'a jamais fait de passation entre les présidents qui se sont succédés à la tête du pays.
Après une accalmie d'environ 5 ans, les armes résonnent de nouveau en Casamance. Le processus de paix qui est en bonne voie n'est cependant pas remis en cause. Les acteurs estimant que les récents événements ne sauraient arrêter plusieurs années d'efforts pour la pacification de la Casamance. À Ziguinchor, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le gouvernement burkinabé a entamé un dialogue social pour baisser la masse salariale dans la fonction publique. Le premier ministre Paul Kaba Tieba a réuni les syndicats, le patronat, les partenaires techniques et financiers, le représentant du Haut Conseil pour le dialogue social et les autorités religieuses et coutumières. Une conférence générale est prévue avant la fin du mois de mars pour statuer sur les différentes propositions. Eric Manirakiza a joint à Atlanta, ici aux États-Unis, l'un des acteurs de la société civile burkinabé, Ismaël Diallo.
Il faudrait d'abord saluer les efforts faits par tout le gouvernement au Burkina depuis l'indépendance d'avoir pu assurer les fins de mois des fonctionnaires. Il faudrait également saluer le fait que le gouvernement veuille avoir l'avis de toutes les strates de la société pour parvenir à des décisions consensuelles. Ceci dit, pour jeter un pavé dans la mare, si le gouvernement en vient à cet exercice, c'est parce que depuis 2 ans, il n'a pas réussi à provoquer la rupture de ce que nous avons vécu pendant 28 ans. Les syndicats burkinabés sont les plus francophones parce qu'ils vont en grève avant de discuter, apparemment. Et peut-être que chemin faisant, ils ont oublié les intérêts moraux pour mettre en avant les intérêts matériels.
Pour vous, c'est une équation à plusieurs inconnus.
C'est une équation à plusieurs inconnus et je doute que cette grande messe aboutisse à quelque chose. Je pense que le gouvernement peine à avoir un langage de vérité totalement franc et transparent avec tous les acteurs de la société. Les travailleurs du public sont combien comparés à toutes les femmes et les hommes du Burkina qui sont actifs, surtout dans l'informel.
Mais comment peut-on réduire un salaire qui est déjà devenu un acquis?
Cela peut se faire en temps de crise et s'il y a une compréhension de tout le monde que c'est une nécessité absolue. Et si ceci se fait de bout en bout pour tout le monde et pas pour une partie. Seulement, il faut dire que notre fonction publique est très désaxée. Il y a des corps qui ont des avantages exorbitants, pendant que l'autre peine. Combien gagne l'infirmière et la matrone? Combien gagne l'instituteur? Combien gagne le policier, le gendarme, comparé à ceux qui sont dans les bureaux, même s'ils sont aux finances et qui contribuent à mettre l'argent? En réalité, il y a beaucoup d'autres endroits où on peut faire des économies avant d'en venir à réduire les salaires. Là aussi, également, le gouvernement ne fait pas assez pour récupérer de l'argent qui traîne ici et là et pour réduire certains abus.
Il y a eu des augmentations cas par cas. Est-ce facile de les remettre en cause aujourd'hui?
Ce n'est pas facile, mais si le gouvernement a le couteau à la gorge, que doit-il faire? Que peut-il faire? C'était une erreur, justement, d'avoir satisfait des revendications au cas par cas. C'est un puzzle. Et quand on touche à un point, on déplace un autre. Il faut faire attention à tout le tableau et non pas agir au cas par cas.
Ismaël Diallo, membre de la société civile burkinabé, joint à Atlanta, ici aux États-Unis.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Niger, des femmes tentent de résoudre à leur manière le problème de la famine. Certaines d'entre elles se lancent dans l'agriculture et encouragent d'autres à le faire. Ilyasu Kassimou a suivi ces fermières nigériennes. Voici son reportage avec le récit de John Linden.
Le jour se lève, Aïchatou Salifou est en route vers la ferme. À 120 km de route de Niamey se trouve sa ferme d'environ 243 hectares. Elle est située à Tamou, dans l'état de Saï. Aïchatou a commencé la agriculture commerciale après la mort de son père. Elle est peut-être la seule à en faire son métier, considérant que les femmes instruites au Niger ne s'impliquent pas dans ce domaine.
J'aime l'agriculture et travailler avec les femmes du village est pour moi une bénédiction. C'est pourquoi je m'y suis engagée.
Environ 5000 personnes, dont 1000 femmes, profitent de la ferme d'Aïchatou, appelée Aïe Noma, ce qui signifie « cultivons ».
Pendant la saison des pluies, nous plantons du blé, des haricots, des noix et beaucoup plus.
Nous utilisons aussi des graines et des plantes dans des terres irriguées. Nous plantons de la laitue, du concombre et d'autres légumes.
Après la récolte, ils n'ont pas besoin d'aller au marché pour vendre leurs produits.
Après la récolte, ils ont des acheteurs déjà prêts. Pas besoin d'aller vendre au marché à bas prix. Nous les aidons à acheter à de meilleurs prix.
Vu les avantages tirés de cette ferme, les femmes ont lancé cet appel.
Notre problème, c'est l'eau. Nous n'en avons pas assez. Nous n'avons pas assez de pompes. Beaucoup de personnes veulent travailler, mais ne s'engagent pas, faute d'équipement.
Aïchatou Salifou s'adresse ainsi aux femmes qui travaillent avec elle.
Quand j'ai commencé, les gens disaient, c'est une profession masculine. Il n'y a aucune profession réservée aux hommes. Vous avez besoin de détermination et d'être à fond dans ce que vous faites.
À cause de son rôle dans la suppression de la faim au Niger, Aïchatou a été contactée par quelques experts agricoles indiens en vue d'un partenariat. Aïcha a aussi fait part de son projet d'ouvrir une école de formation agricole au Niger.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le lac Tchad qui lie le Sahel et l'Afrique centrale. Une conférence internationale se tient cette semaine à Abuja pour sauver cette région dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Le lac Tchad est-il en danger de disparition? Où en est-on avec le méga projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui touche la région? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h08.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans votre émission RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'habitude. Sujet de cette semaine, est-ce nécessaire de frapper l'enfant pour l'éduquer? Est-ce nécessaire de frapper l'enfant pour l'éduquer? Vous avez proposé ce sujet, on en parlera cette semaine. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31. Contactez-nous aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Arab Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Appelez-nous en live, en direct au 001 202 619 3140. Peace Africa.
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Thomas Blondet. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.